Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire, comme chaque semaine, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Et puis, le débat ce samedi, liberté, égalité, identité, identité au pluriel. C'est la couverture du dernier numéro de Philosophie Magazine. Comment penser, comment reconnaître, comment faire droit aux différences dans une république universaliste où le citoyen n'a pas de sexe, pas de genre, pas de couleur de peau ni de religion. Il faut se souvenir d'un court texte d'intervention qu'avait publié la journaliste et écrivaine Tania de Montagne. Le titre était « L'assignation, l'assignation à identité », comme on parle d'assignation à résidence. Le sous-titre de ce court essai « Les Noirs n'existent pas ». Noirs avec une majuscule et c'est loin d'être anecdotique, c'est même capital. Tania de Montagne viendra nous expliquer pourquoi dans une vingtaine de minutes et comment penser la question sociale aussi dans ce cadre-là. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. J'adore vous appeler monsieur le directeur, madame la directrice. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver.
Très.
Oh bah oui.
Toujours. Le moral est bon apparemment. Ça fait du bien d'entendre ces rires, mais pour commencer, on ne rigole pas, on ne rigole vraiment pas avec ça.
L'important, c'est mental. Qu'il n'y ait pas d'idéologie dans un sens ou dans l'autre, dans l'assiette de nos enfants. Et que la question, ça soit toujours la santé et le choix. Moi, je le dis, je suis évidemment sensible à la question des repas végétariens. Mmh. Et vous savez, on a voté des textes de loi précisément pour qu'il y ait une alternative de menus végétariens dans les établissements scolaires, pour augmenter la part du bio dans les cantines scolaires. Ça sera 20% minimum d'ici au 1er janvier 2022. Mmh. Et donc, il faut toujours laisser le choix.
C'était Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement au micro de Nicolas Demorand, dont vous aurez reconnu les mythiques c'était vendredi hier sur France Inter, Gabriel Attal qui tentait de calmer la cacophonie qu'on a pu observer au sein du gouvernement avec plusieurs ministres qui se sont déchirés après la proposition du maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, Grégory Doucet, d'instaurer des menus uniques sans viande à la cantine. Natacha Polony, on sait votre passion à la fois pour l'école, pour la bonne bouffe et pour les questions qui, de près ou de loin, ont trait aux enfants. Alors, qu'avez-vous pensé de ce débat qui a fait irruption sans qu'on s'y attende dans l'espace public ?
J'y ajouterai un intérêt pour les questions environnementales et pour la défense d'une agriculture paysanne. Et ça a son importance dans ce débat.
Voilà qui est dit.
Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de toutes parts dans ce débat et que ça le fausse terriblement et ça le transforme en une polémique apparemment stérile, alors que c'est un enjeu absolument passionnant et essentiel. La question est la suivante. Grégory Doucet, maire de Lyon, prend cette décision. Gérard Collomb l'avait déjà prise lors du premier confinement. Donc, on peut dire que c'est une simple mesure technique qui permet de fluidifier le moment de la cantine à cause des règles sanitaires.
Oui.
Certes. Sauf qu'en fait, si on commence à dire ça, alors il faut en conclure que toutes les autres cantines en France fonctionnent de façon aberrante et en mettant en danger les enfants. Il semblerait. Ou alors, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont on prend le débat. Donc, je pense que tout cela n'est pas dénué d'arrière-pensée. Voilà des années que, au sein d'Europe Écologie Les Verts, on explique que la consommation de viande, en général, poserait problème sans jamais distinguer et sans jamais dire de quelle viande on parle. Or, je pense que c'est là-dessus qu'il serait nécessaire de replacer le débat. C'est-à-dire que l'idée de faire des repas sans viande, l'idée de dire que nous mangeons globalement trop de viande, notamment en France, me semble tout à fait juste. Et d'ailleurs, il est tout à fait raisonnable d'avoir instauré au moins une fois par semaine un repas sans viande. C'était le projet de la loi Egalim. La loi sur l'environnement, sur le climat, va amplifier tout cela. Tant mieux. En revanche, dire qu'on ne va plus manger de viande du tout, disons que ça fait entrer différents problèmes. D'abord, il y a le fait que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne veulent pas manger la viande qui est servie à la cantine.
Peut pas les en blâmer. Hein.
Non, mais c'est pas pour une question de goût. Certains, c'est pour une question de choix, ils ne veulent pas manger de viande. Et il y en a d'autres, c'est parce que ce n'est pas une viande qui relève de pratiques d'abattage confessionnel. Et du coup, quand il doit y avoir un menu unique, c'est plus simple de dire « Ah bah du coup, on fait pas de viande du tout ». Comme ça, on ne s'embête pas. Ça, c'est le premier point. Or, ça pose un problème d'égalité. Et surtout, je crois que la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas manger moins de viande, mais en s'approvisionnant correctement? On ne peut pas penser la question des cantines et la question des marchés publics globalement si on ne pense pas le fait qu'on ferait mieux de préserver des filières de viande bovine, notamment avec des vaches qui mangent de l'herbe, ce qui est de nos jours, c'est devenu une rareté, oui. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on importe en effet du soja OGM pour faire manger des cochonneries à certaines bêtes, c'est ça pollue. En revanche, une viande qui a brouté de l'herbe est beaucoup moins polluante, et je pense que c'est vers ça que les pouvoirs publics devraient se tourner. Il y a des villes qui le font, qui travaillent leurs approvisionnements, qui diminue la quantité de viande, mais de bonne qualité. Je pense que c'est le devoir des pouvoirs publics de faire manger des produits de bonne qualité aux enfants, plutôt que d'avoir des arrière-pensées.
Gilles Finkelstein.
Quand on regarde cette polémique de près, elle est assez édifiante. C'est un signe, je dirais un signe supplémentaire de la pathologie de notre démocratie. On voit à quel point on peut monter très vite et très haut dans la polémique. Bruno Retailleau a quand même parlé d'une tentation totalitaire. On voit comment on peut partir très loin de la vérité des faits, puisque Natacha l'a bien dit, entre ce que proposait réellement le maire de Lyon et ce sur quoi a porté la polémique, il y avait un monde. Et c'est un signe, là aussi un signe supplémentaire, des tensions qui animent la majorité. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu plusieurs ministres à ce point se vilipender sur les réseaux sociaux et par médias interposés.
Oui.
Mais quand on regarde, non plus de près, mais quand on regarde de loin, de plus loin cette polémique ou ce sujet, je crois que c'est plus passionnant encore. Et il ne s'agit pas d'idéologie, comme l'a dit Gabriel Attal, mais je crois que cet objet, la cantine scolaire, est devenu un objet extraordinairement politique qu'il est intéressant de regarder. C'est un enjeu environnemental, Natacha Polony l'a évoqué, de savoir qu'est-ce que l'on consomme, et notamment sur la viande, comment on produit, d'où viennent les produits. C'est un enjeu sanitaire sur la qualité de l'alimentation. C'est un enjeu culturel sur l'apprentissage du goût. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un enjeu social pour savoir quel est le coût d'accès à la cantine. Parce que contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce sont plutôt les familles modestes qui vont moins à la cantine que les familles plus favorisées. Donc il y a tout ça qui est en jeu. La législation, Natacha Polony l'a évoqué, a évolué. Mais surtout, ce que l'on ne mesure pas, c'est de voir à quel point concrètement, ville par ville, les choses bougent de manière absolument considérable. Vous prenez, pour ne vraiment illustrer avec un ou deux exemples, ce qui se passe à Bordeaux, avec là aussi un maire écologiste. Il y a un travail en cours pour éliminer le plastique de la cantine. Vous regardez ce qui se passe à Dijon, maire socialiste, où la quantité de bio est passée, ou va passer en l'espace de quelques années, de 10% à 50%, avec un objectif d'autosuffisance alimentaire locale. Et vous regardez, c'est un des exemples que je trouve les plus intéressants, ce qui se passe à Montpellier, où un jeune maire socialiste vient d'être élu. Non seulement il y a un repas végétarien qui est proposé en plus chaque jour et qui est le menu unique une fois par semaine. Mmh. Plus que ça, il y a une cuisine, à la place d'une cuisine centrale dans laquelle tous les repas de la ville sont faits, vous avez plein de petites unités qui sont faites auprès des zones maraîchères et vous avez des tarifs sociaux, un tarif à 0,50 euros pour les familles monoparentales qui sont dans les situations les plus difficiles. Donc, je crois que c'est un vrai objet politique et que c'est une grille de lecture très intéressante pour voir ce que font les uns et les autres.
Le ministre Julien de Normandie a parlé de quelque chose d'aberrant d'un point de vue nutritionnel et une honte d'un point de vue social. Est-ce qu'il a raison, Natacha ?
Alors, il a raison sur un point, c'est que on a une filière d'éleveurs qui est extrêmement fragilisée aujourd'hui et que la poignarder ne me semble pas la meilleure manière de préserver l'environnement en France, dans la mesure où l'élevage, la paysannerie fait partie, ce sont les gens qui aujourd'hui entretiennent le territoire, et je pense qu'il faut au contraire les aider. La question, donc, c'est de savoir, Gilles a tout à fait raison, il y a des choses absolument novatrices qui sont faites. Je citerai Mouan Sartou, qui est exemplaire, parce que c'est l'endroit d'ailleurs où il y a le moins de gâchis, justement parce qu'on a réappris à manger, en faisant la cuisine sur place. Parce que, rappelons-le rapidement, il y a trois grandes sociétés qui fournissent la restauration collective. Et le livre noir des cantines scolaires qui avait été publié en 2018 montrait à quel point ils ne respectaient absolument pas les cahiers des charges, notamment en matière de capacité à fournir des produits locaux. C'est-à-dire que quand c'était pas local, parce que soi-disant ils n'avaient pas eu les approvisionnements, on oubliait de le dire. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Donc je pense que plus de contrôle sur les approvisionnements, un travail sur les marchés publics pour dire, pour obliger à se fournir localement et de qualité. Par exemple, la ville de Rouen fait 30% de bio, 30% de produits locaux, en vérifiant que c'est, en bannissant les produits industriels, l'agriculture industrielle. Ça me semble une possibilité. C'est tout cela qu'il va falloir étudier parce que c'est un levier d'action pour le climat, pour, en effet, l'apprentissage au goût qui est essentiel pour permettre de lutter ensuite contre la malbouffe. Donc c'est social, c'est culturel, c'est environnemental. Il y a beaucoup de choses à faire.
Et une autre cantine est possible. Un mot pour conclure, Gilles.
Oui, juste un mot sur est-ce que c'est antisocial? Ce qui est le plus antisocial, c'est le dernier chiffre que j'ai, je ne sais pas si les choses ont été actualisées depuis, mais les deux tiers des communes n'ont pas de tarification sociale. C'est-à-dire que, quel que soit le revenu des parents, c'est le même prix pour tous. Ça, c'est ce qu'il y a de plus antisocial.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée.
Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes.
Alors, si oui,
Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes.
Nous acceptons.
McFly, Carlito et le président de la République réunis pour une bonne cause, en l'occurrence un défi pour mettre en ligne un clip qui incite à appliquer les gestes barrières. Et il aura fallu 3 jours seulement pour que le clip mis en ligne sur YouTube par McFly et Carlito dépasse les 10 millions de vues. Et ils ont donc obtenu qu'Emmanuel Macron participe bientôt à un concours d'anecdotes dans une vidéo qui sera tournée à l'Élysée. Gilles, très sincèrement, à quoi ça sert?
Écoutez, je vois votre
perplexité,
voire une petite pointe d'ironie.
Non, pas du
J'ai
tout.
J'ai lu un flot de critiques, c'est une désacralisation de la fonction présidentielle, une gadgetisation de la politique, une infantilisation des jeunes. Moi, je trouve que c'était une très bonne idée. Voilà. Je trouve que c'était une bonne idée parce que, d'abord, c'était utile dans la lutte contre le Covid. L'enjeu des jeunes dans la lutte dans cette pandémie est de plus en plus important parce qu'on sait maintenant qu'ils transmettent davantage qu'on ne le croyait et c'est sans doute eux qui respectent un peu moins les gestes barrières. C'est un succès. On était ce matin à un peu plus de 13 millions de vues de cette vidéo. Un journal télévisé d'une grande chaîne, c'est moins de 6 millions. Donc c'est très spectaculaire. Donc c'est un succès. Au pire, ça ne servira pas à grand-chose. Au mieux, ça sera un des éléments pour lutter. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant en termes de stratégie de communication. C'est vrai pour le président de la République, mais c'est vrai pour l'ensemble des responsables politiques. On est dans un moment dans lequel l'intérêt pour la politique est extrêmement minoritaire, et il est extrêmement minoritaire, davantage encore, chez les jeunes. On est à un moment dans lequel...
Mais McFly et Carlito font de la politique, là.
Attendez, on est dans un moment dans lequel la consommation des médias est bouleversée. Le mode d'entrée dans l'information des jeunes ne sont plus les médias traditionnels. Bon, et donc dans ce moment-là, la question de savoir comment un responsable politique devient lui-même un média, elle est posée à tous.
Oui.
C'est ce que Donald Trump a fait avec son compte Twitter, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon essaye de faire également. C'est ce que Emmanuel Macron, président de la République, fait évidemment. Il a 6 millions d'abonnés sur son compte Twitter, il a lancé un compte TikTok, donc là qui est une autre sociologie.
C'est ce qu'a fait Barack Obama dès
2008. C'est ce que fait Barack Obama. Mais savoir comment, au-delà, lorsqu'on n'est pas soi-même son média, comment trouver de nouveaux médias, c'est évidemment ce à quoi il faut aussi réfléchir. Alors là aussi, Emmanuel Macron l'a fait lorsqu'il a donné une interview à Brut il y a quelques temps, ou à Combini, et il le fait...
C'était différent, c'était sur les violences policières avec un ton beaucoup plus grave.
Et il le fait, non, d'une certaine manière avec les influenceurs, avec McFly et Carlito, 6,5 millions d'abonnés sur leur compte YouTube. l'enjeu démocratique derrière, c'est de s'adresser à des gens auxquels on ne peut pas s'adresser autrement, notamment les jeunes. Et j'ajoute que dans une campagne présidentielle de 2022, dont on ne sait pas si elle ne sera pas beaucoup plus qu'avant une campagne numérique, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Donc, a priori positif là-dessus, après quand même, je termine par là, des limites, des prudences. Prudence qui est, il faut éviter quand on fait ça, une désarticulation de son discours, c'est-à-dire à chaque cible on tient un discours différent, il faut garder de la cohérence. Il faut éviter évidemment que la politique devienne un gadget, et il faut qu'il y ait un équilibre dans la désintermédiation. On a besoin, évidemment, c'est pas ici que je dirais le contraire, des médias traditionnels. J'ajoute un tout dernier mot. Le risque maintenant pour Emmanuel Macron, maintenant que le pari a été gagné, il va y avoir ce concours d'anecdotes.
Oui.
Un concours d'anecdotes, je ne sais pas si tous les auditeurs ont déjà vu un concours d'anecdotes de McFly et Carlito, ça consiste à raconter une anecdote et après l'autre doit dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et là, il y a un danger pour Emmanuel Macron. Le danger, c'est d'être pris en flagrant délit de mensonge, de montrer qu'il est capable de très bien mentir, et donc ça, il faut qu'il fasse très attention.
Parce que pour gagner, il faut être capable de très bien mentir, justement, Natacha Polony.
Oui, je serais un tout petit peu moins enthousiaste que Gilles face à ce phénomène. Non, mais cela dit, je suis pas non plus vent debout en trouvant que c'est un scandale, et je ne pense pas du tout que ce soit une désacralisation de la fonction présidentielle, parce que je pense que la communication s'est introduite en politique depuis déjà longtemps, et quand François Mitterrand se faisait interviewer par Yves Mourouzi, la fesse sur le bureau, et expliquait qu'on ne disait plus Chébran mais Bléca, c'était à peu près du même ordre. Donc je pense pas que ce soit véritablement cela le sujet. Premier point, je m'interroge, est-ce que les gens qui ont vu cette vidéo ont en quelque sorte intégrer le moins du monde, le message censé être délivré. C'est-à-dire, est-ce que réellement ça fait progresser la pratique d'une prudence bienvenue face au coronavirus ou pas ? J'ai un énorme doute. C'est-à-dire que je pense que, pour le coup, c'est peut-être prendre les jeunes pour des imbéciles que de croire que c'est parce que McFly et Carlito le leur disent qu'ils vont tout à coup trouver ça génial. Je suis perplexe face à cela. De même d'ailleurs que je suis
perplexe. Ça marche sur Gilles, hein, qui reste un éternel jeune homme et qui a l'air d'être totalement convaincu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de stratégie de communication et la manière dont le président s'adresse aux Français sur la question de la stratégie de lutte contre le Covid. Il a commencé en chef de guerre un an après. Quasiment jour pour jour,
oui,
on en est à la vidéo avec McFly et Carlito. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer plus tôt par cette communication empathique, inclusive, s'adressant à tout le monde et notamment aux plus jeunes ?
Disons que j'ai dans l'idée qu'un juste milieu eût été déjà pas mal et salvateur. Mais je voulais ajouter une chose. Je pense que ceux qui s'indignent en expliquant que c'est un scandale parce que, ce faisant, Emmanuel Macron a instrumentalisé McFly et Carlito pour travailler sa réélection, me semble là aussi prendre un petit peu les jeunes gens pour des crétins. Parce que il me semble que beaucoup de jeunes gens de 18-20 ans aujourd'hui sont parfaitement capables de se méfier de ce genre d'instrumentalisation, et que justement je ne crois pas du tout que ça marche d'un point de vue électoral. Le problème n'est pas là, le problème est en effet de savoir comment on fait pour recréer du débat politique, de l'échange entre des générations, quand il n'y a plus des médias, j'allais dire, qui forment cette communauté et qui parlent à tout le monde. La question est celle de la fragmentation. Et le risque de s'adresser à des youtubeurs pour parler aux jeunes, en effet, Gilles l'a esquissé, il a dit que ce serait dommage de tenir un discours différent. Or, c'est bien le risque. Tenir un discours différent suivant les publics, ne plus s'adresser à eux à travers leurs raisons, mais en essayant de les draguer, en leur donnant les codes qui sont les leurs, je pense que ce n'est pas tout à fait une élévation ni des jeunes, ni de qui que ce soit dans la population. Donc je pense qu'il va falloir repenser la communication politique pour trouver ce juste milieu dont je parlais.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
À mon avis, on devrait être désespéré de voir le décrochage entre les pouvoirs, les institutions, le Parlement, le gouvernement et la base des citoyens du pays, qui ne s'y reconnaissent pas, qui ne participent plus aux élections. Ça veut dire une crise démocratique assurée et garantie.
Mais la proportionnelle...
Et la proposition que je fais, elle est toute simple. Les Français sont égaux devant la représentation et ils seront tous représentés au Parlement, qu'ils soient des partis majoritaires ou des partis minoritaires.
François Bayrou, président du Modem, qui était l'invité de France Info ce jeudi et qui revenait, François Bayrou, sur cette demande maintes fois formulée d'introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives afin de mieux représenter les Français. Natacha Polony, une vieille demande, mais qui risque de ne pas aboutir ?
Ça, quel risque de ne pas aboutir, ça, c'est une certitude dans la mesure où on voit bien le caractère de serpent de mer. Non, la question est passionnante. Pourquoi ? Parce que, premier point, quels sont les arguments depuis des années autour de cette question de la proportionnelle ? Il y a ceux qui disent ce serait catastrophique, ça donnerait un poids au Rassemblement national beaucoup trop fort. Et là, on touche à la question démocratique. Ne faut-il pas, à un moment donné, assumer et prendre ce risque justement pour, j'allais dire, faire sortir du bois chacun. C'est-à-dire qu'une fois que un parti a des élus, il est bien obligé de mener une politique, de prendre des positions. Ça, c'est le premier point. Et donc, on voit en effet ce que ça donne. Et surtout, peut-on croire qu'on va contenir un parti en disant il pose problème, donc il ne doit pas avoir de représentation, et priver ainsi de représentation à l'Assemblée, ou en tout cas diminuer la représentation à l'Assemblée de pans entiers de la population. Je pense que c'est dangereux. Deuxième point, pour autant, la proportionnelle ne réglerait pas tous les problèmes. Et le croire me semble c'est un aveuglement total dans la mesure où c'est oublié que c'est l'ensemble des institutions qui ont été petit à petit déstabilisées. Certes, il y aurait plus de représentation des différents courants politiques, mais ça ne permettrait pas un contre-pouvoir suffisant. En revanche, ça permettrait peut-être d'imposer un tout petit peu plus de compromis. Or, le compromis fait partie de la démocratie. Et la pratique qui m'a semblé extrêmement dangereuse de la part de La République En Marche et de la part du gouvernement depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est de ne même pas étudier à l'Assemblée nationale les amendements présentés par l'opposition, même quand ils étaient totalement, intéressants, pas politiciens. C'est-à-dire que nous n'avons plus en France, l'avons-nous jamais eu vraiment, mais en tout cas là, ça devient extrêmement problématique, nous n'avons pas cette culture du compromis qui consiste à respecter les oppositions. Et je pense que nous allons vers des fractures, donc un peu de proportionnel, et il faudrait définir comment, serait un des éléments, mais ça ne peut pas suffire, il faut remettre à plat les institutions.
Gilles Finkelstein.
Oui, François Bayrou a, je crois, a raison quand il dit qu'il faut s'alarmer de la crise de la démocratie représentative que nous connaissons et essayer de réfléchir aux moyens et de se poser la question de la représentation proportionnelle. Il faut sur ce sujet-là éviter le débat in abstracto. C'est-à-dire, on reprend les mêmes arguments depuis des années, depuis des décennies, pour ou contre la représentation proportionnelle. En gros, si on est pour, on dit que la démocratie est fragilisée parce qu'il y a un manque de représentativité, on a un problème de justice, qu'avec le mode de scrutin actuel, il n'y a plus de coalition, c'est le pouvoir à un seul. Si on est contre la proportionnelle, on dit que la démocratie peut être fragilisée parce qu'il y a un risque d'instabilité, c'est un problème d'efficacité, et que ça oblige à des coalitions après les élections. Tout ça, ces arguments, on les a mille fois entendus, et donc je crois que la question qu'il faut se poser, c'est dans la situation de la France d'aujourd'hui, est-ce que ça peut être une bonne solution ? Dans cette situation dans laquelle il y a à la fois un problème de mode de scrutin, c'est-à-dire de représentativité de l'Assemblée nationale, mais aussi de stabilité, puisqu'en réalité, contrairement à ce que l'on dit, la valse gouvernementale, c'est vrai des premiers ministres, c'est vrai davantage encore des ministres, et au moins aussi forte en France que dans les autres démocraties qui ont un régime parlementaire. Et il y a au-delà, et centralement, un problème institutionnel. Alors on peut essayer de traiter ce problème de face, c'est-à-dire traiter la question institutionnelle. Et on peut se dire, on va le traiter de biais, c'est-à-dire avec la proportionnelle, on va résoudre ce problème-là en obligeant à des coalitions qui déplaceraient le centre d'équilibre du pouvoir
entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale plutôt que de le concentrer sur le président de la République. Ça serait un vrai risque. Ça serait un vrai risque parce que la coalition serait obligatoire dans un pays dans lequel le champ politique est extraordinairement éclaté et où toute coalition est extrêmement difficile. Et une fois qu'on s'engage là-dedans, le problème est que il n'y a plus de modalité de règlement du problème parce qu'une dissolution reproduit peu ou prou la même assemblée. Peut-être qu'il faut le faire, peut-être qu'il faut prendre ce risque dans la situation dans laquelle on est, mais il faut avoir conscience que c'est un risque. Est-ce qu'on a une certitude, comme l'a dit Natacha, que ça ne va pas se faire? Mon intuition est que Emmanuel Macron ne le souhaite pas, ça ne correspond ni à son tempérament personnel, ni, je dois dire, à son expérience présidentielle quand il regarde la manière dont, autour de nous, les Espagnols, les Italiens, les Allemands ont eu des difficultés à constituer leur propre gouvernement. La question, c'est est-ce qu'il va y être contraint? Et ça, on va le voir.
Un mot, vous vouliez réagir l'un et l'autre à la une du journal Libération aujourd'hui. Une une où l'on voit Marine Le Pen et le président de la République Emmanuel Macron. 2022, entre guillemets, j'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini. Entre colère et déception, les électeurs de gauche interrogés par Libé redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle et ils appellent au réveil de leur camp. Pour beaucoup, pas question de revoter Macron, même face à Le Pen. Gilles, rapidement, avant d'accueillir Tania de Montaigne,
puis Natacha. Les électeurs de gauche redoutent la répétition de cet affrontement.
Je ne fais que lire la une de Libération.
Oui, 70% des Français ne souhaitent pas la répétition de cet affrontement. Donc il n'y a pas que les électeurs de gauche. Après, lorsque on a débattu il y a quelques semaines des différents sondages d'intention de vote qui montraient un resserrement très important des résultats du second tour en cas de répétition de ce duel par rapport aux résultats de 2017, eh bien, l'explication, elle venait de ce que l'on voit dans Libération d'aujourd'hui et dans ce que beaucoup d'auditeurs ont dû entendre et peut-être pensent eux-mêmes, c'est on ne nous y reprendra pas parce qu'il y a un sentiment, à tort ou à raison, de trahison, de déception, d'exaspération. Et donc c'est une question qui est posée, qui sera posée si elle est posée, et ce n'est pas encore le cas. Oui. Aux électeurs de gauche, c'est une question dans l'intervalle qui est posée aussi au président de la République, de savoir comment il fait pour éviter que cela se reproduise.
Natacha ?
Oui, ce qui m'effare surtout, ce sont en effet les réactions outragées face à cette une. Cette une relève d'une enquête journalistique qui a d'ailleurs déjà été faite par d'autres journaux, enfin tous les services politiques de toutes les rédactions de France réfléchissent à cette question-là et ont en effet observé qu'il y avait un basculement. Et donc, il ne faudrait pas le dire. Il ne faudrait pas le dire parce que ça ferait le jeu de, encore une fois, ça fait 30 ans qu'on explique que, quoi qu'on fasse, ça fait le jeu du Front National. Et là, l'idée, c'est de dire que on serait coupable de ce risque. Le fait même de constater qu'il y a des gens qui ont l'impression de n'avoir pas été pris en compte, c'est-à-dire toute la jambe gauche d'Emmanuel Macron, pour le dire simplement, tout cela, ça, il ne faudrait pas l'analyser. Je suis assez effarée de ce que ça révèle du rapport de certains à l'information et aux médias. Je pense qu'il faut regarder cela, en effet, lucidement, se souvenir que quand 70% des Français ne veulent pas que quelque chose arrive, a priori, il y a une raison, et cela signifie que, justement, il ne vaut mieux pas que ça arrive, un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, parce qu'en effet, cela voudrait dire que la France est toujours prise dans un blocage qui ne lui permet pas de trouver un débouché politique aux aspirations des citoyens.